Vous écoutez, on lit pour vous.
Le plein air sous la loupe d'une chercheuse. Un texte de Marie Tison, paru le 15 juin 2024 dans La Presse. Le plein air, c'est bon pour la santé, tout le monde sait ça. Mais qu'en est-il des retombées physiques, psychologiques et sociales d'activités spécifiques comme l'escalade de rochers, le canot de rivière et la randonnée pédestre? Bon, à savoir, si on veut recourir à ces activités dans le cadre d'interventions psychosociales. Virginie Gargano, professeure adjointe à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, veut savoir. Elle a donc entrepris une série d'études en rencontrant notamment des mordus de ces trois activités. Dans l'idée d'intégrer davantage des activités d'aventure dans l'intervention de groupes en travail social comme moyen pour atteindre des objectifs, c'est important de savoir ce que ces activités génèrent chez les participants, déclare-t-elle. Elle explique que les programmes de plein air avec des visées éducatives ou d'intervention se sont souvent développés à partir de camps de vacances ou d'écoles d'aventure. On offrait une variété d'activités. Il y a plusieurs études qui démontrent des retombées sur différents plans, dit-elle. Le plan personnel et le plan interpersonnel, mais rares sont les travaux qui s'intéressent aux retombées d'une activité spécifique. On va voir les participants. On dit « voici ce que ça donne ». Mais est-ce que c'est réellement lié à l'activité ou à d'autres facteurs? Virginie Gargano s'y connaît en plein air. Elle est guide de formation, titulaire d'un baccalauréat en plein air et tourisme d'aventure, puis d'une maîtrise en travail social et d'un doctorat en service social. Mes travaux de recherche sont toujours articulés autour du plein air, déclare-t-elle. Elle a justement obtenu une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour étudier les retombées de trois activités spécifiques, l'escalade de rochers, le canot de rivière et la randonnée pédestre. Dans le cadre de cette subvention, il était important de rattacher nos projets à la population canadienne, explique Mme Gargano. Au Canada, on a plusieurs sites d'escalade extérieure, une panoplie de rivières et de lacs, des réseaux de sentiers pédestres dans tout le pays. C'est la raison pour laquelle j'ai débuté avec ces disciplines-là. Elle a mené des entrevues avec des dizaines de participants, elle a colligé les données avec une collègue et elle est maintenant au stade de l'écriture. Elle espère faire publier ses études dans des revues scientifiques en français et en anglais, en libre accès, donc accessible à la population. « Je trouve ça intéressant de réaliser des travaux scientifiques, » dit-elle. « Mais je pense que c'est important que ça se rende à la population. Je veux que ça serve à la population. » Virginie Gargano a justement commencé à présenter des résultats préliminaires lors de conférences et a préparé des capsules vidéo offertes sur sa chaîne YouTube, notamment en ce qui concerne l'escalade. Les gens qui font de l'escalade ont une perception d'une meilleure forme physique, de bien vieillir, indique-t-elle. L'escalade est un moteur pour rester en forme longtemps. Physiquement, ce qui émerge beaucoup des retombées perçues par les participants, c'est la force, la flexibilité, l'endurance. En fait, de retombées psychologiques, les participants parlent de confiance en soi, de dépassement, du sentiment de compétence, de la fierté. Sur le plan social, ils évoquent la relation spéciale avec leur partenaire d'escalade. Il se crée une connexion profonde entre deux individus parce qu'ils vivent des défis similaires. Ils doivent résoudre ensemble différentes sections de la paroi. Sur un plan plus spirituel, les participants évoquent le besoin de se connecter à la nature. Ultimement, Virginie Gargano aimerait comparer les résultats obtenus pour chacune des trois disciplines. « Il y a une différence », affirme-t-elle. « Les gens de canaux d'eau vive parlent plus d'une communauté que de la relation entre les partenaires. C'est aussi le cas des gens qui pratiquent la randonnée pédestre. Ceux-ci sont moins dans les activités qui génèrent de l'adrénaline ou un dépassement de soi. Ils sont davantage dans une démarche introspective, contemplative. Ce sont des informations qui peuvent guider les organismes qui mettent sur pied des activités d'intervention psychosociale. Ces organisations pourront ainsi choisir les disciplines qui correspondent davantage à leurs objectifs. Au Québec, on fait figure de leader, soutient Madame Gargano. Nous avons plusieurs organisations qui se démarquent par rapport à l'intervention en contexte de nature et d'aventure. On parle notamment de la Fondation sur la pointe des pieds, qui offre des expéditions d'aventure thérapeutiques aux jeunes atteints de cancer, de Face au vent, qui vise une clientèle suivie en santé mentale, et de Maïkana, qui œuvre également dans le domaine de la santé mentale. C'était Le plein air sous la loupe d'une chercheuse. Un texte de Marie Tison, paru le 15 juin 2024 dans La Presse.
Commission de vérité et réconciliation, un récit de transcendance. Un texte de Denis Laure, paru le 6 juin 2024 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest. La Commission de vérité et réconciliation du Canada a été une expérience qui a transformé la vie de Mary Wilson. North of Nowhere en est le récit littéraire. C'est un livre qui demande beaucoup du lecteur, précise Mary Wilson, ancienne commissaire et journaliste, citoyenne de Yellowknife. Mais j'espère que les gens vont vraiment se donner le temps et la réflexion nécessaire pour saisir ce que j'offre, la profondeur des survivants et le meilleur de ma vie intérieure, de ma réflexion personnelle. La Commission. La Commission de vérité et de réconciliation a été créée pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les pensionnats indiens, notamment l'extinction des cultures autochtones, les violences corporelles et les mauvais traitements qu'ont subi les pensionnaires. Elle avait également pour objectif de sensibiliser et d'éduquer le public canadien sur le système des pensionnats et ses répercussions. Les travaux de la Commission se sont déroulés de 2009 à 2015 à travers le pays. Les témoignages de près de 7000 anciens pensionnaires ont été recueillis. Quelques 94 appels à l'action ont été adoptés, préconisant des mesures dans le domaine de l'enfance, de l'éducation, de la justice, etc. North of Nowhere témoigne à la fois de cette commission et de la vie de Mme Wilson, elle-même épouse d'un survivant des pensionnats, l'ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, Stephen Kakfui. Une expérience complexe. On peut difficilement rester indemne, inaltéré, après avoir écouté, reçu durant des années, les témoignages de personnes qui ont été brisées par les pensionnats et ont tenté de se reconstruire. C'était un travail épuisant, spirituellement et émotionnellement, écrit Mme Wilson dans son livre. Ça a été une expérience transformatrice qui m'a imprégné et qui continue, par-delà la commission, à moduler la façon dont je perçois le monde et moi-même. En entrevue, en français, Mme Wilson précise que participer à la commission est une expérience tellement complexe qu'elle suscite simultanément du courage et du découragement, du désespoir et de l'inspiration. Elle place d'un côté de la balance la méchanceté et même le mépris avec lequel on a traité des enfants. De l'autre, la manière dont ceux-ci ont réussi à vivre des vies d'adultes, accomplir plein de choses, avoir des familles, parfois avec des défis, mais aussi avec des succès inattendus. L'auteur admire la façon dont certains survivants et leurs familles ont pu trouver à l'intérieur d'eux-mêmes le pardon et acceptent de partager avec les allochtones un terrain qui leur a été volé. C'est d'une largeur d'esprit incroyable, considère-t-elle. Lecture en duo. Le 30 mai, dans le cadre du festival littéraire Northwards, Mary Wilson et son époux Stephen Cacfui lisaient des extraits de leurs livres respectifs à la bibliothèque Centennial de Hay River. Caitlin Press a publié en mars 2023 les mémoires du politicien ténois Stoneface. Monsieur Cacfui a lu un passage où il narre sa rencontre avec sa future femme et la visite de celle-ci dans sa communauté de Fort Good Hope. L'ancien député et premier ministre a également témoigné des abus qu'il a subis au pensionnat Crowlier Hall à Inuvik. Écrire a été ma thérapie pour ces abus, révèle-t-il. Il lui a fallu longtemps avant de se confier sur cette période de sa vie. Je ne voulais pas en parler parce que j'étais une personne publique et je n'avais déjà pas beaucoup de vie privée, dit-il. Il s'est finalement décidé à parler publiquement de ses violences, étant malade chaque fois qu'il s'ouvrait sur ceux-ci, mais déterminé à passer à travers. Grandin, l'exception. Parmi toutes ces écoles religieuses où la malveillance était la pierre d'assise, une seule exception, semble-t-il, le collège Grandin à Fort Smith. M. Cacfui l'a fréquenté, se trouvant ainsi, souligne Mary Wilson, comme quelques autres autochtones, à avoir vécu le pire et le meilleur en termes de pensionnat. On devait y former les futurs leaders de l'Église catholique, écrit l'auteur de North of Nowhere. Extrait. Aucun prêtre ou religieuse n'est jamais sorti du collège Grandin, mais Grandin est devenu un pensionnat avec une réputation de leadership d'où sont issus plusieurs chefs, quelques premiers ministres, plusieurs professeurs et membres de l'Assemblée législative. Cela a valu au père Pochat, Jean Pochat Cotillou, le directeur, l'Ordre du Canada. Il a été nommé par ses anciens étudiants. Il est le seul père qui les a traités comme un père. Mary Wilson assure que Grandin est le seul pensionnat indien dont elle ait entendu dire qu'on y traitait dignement les élèves autochtones. C'est vraiment exceptionnel, souligne-t-elle. Ce n'est pas « il y en avait des bons et il y en avait des pires ». Il y en avait plein, 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 où il y avait plein de problèmes et il y avait cette exception. Tenir parole. Pour l'ancienne directrice de CBC North, la réconciliation s'accomplit trop lentement. Elle souhaite que ce thème fasse partie de la plateforme électorale de chaque parti lors de la prochaine campagne électorale fédérale. Quant aux engagements de l'État et des Églises, selon sa perception, certains ont respecté en partie ou en totalité, d'autres non. Je ne suis pas en mesure de dire exactement qui a fait quoi parce qu'on n'a pas le mécanisme pour surveiller tout ça, avance Mary Wilson. Les églises protestantes étaient beaucoup plus prêtes à faire tout ce qu'elles avaient à faire, payer tout ce qu'elles avaient à payer et livrer leurs archives. Du côté des églises et des entités catholiques, certaines ont beaucoup participé, les jésuites par exemple, et d'autres, pas du tout. Le 30 avril dernier, la loi portant sur un Conseil national de réconciliation est entrée en vigueur. Ce conseil doit évaluer les efforts envers la réconciliation et la mise en œuvre des appels à l'action. En français, North of Nowhere est disponible en version anglaise en librairie. Selon une porte-parole de la maison d'édition Anansi, les droits pour une édition en français sont toujours disponibles. Les propos de Mme Wilson ont été légèrement modifiés à des fins de clarté et de concision. C'était « Commission de vérité et réconciliation, un récit de transcendance », un texte de Denis Laure, paru le 6 juin 2024 dans l'Aquilon des Territoires du Nord-Ouest.
Des enfants placés chez des intervenants de la DPJ. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 25 mai 2024 dans Le Devoir. Des enfants du Nunavik sont placés dans des familles d'intervenants ou d'ex-employés de la DPJ. Au point où un juge évoque l'existence d'une filière familiale prolifique pour le placement d'enfants inuits dans le sud de la province. Une situation qui a des apparences de conflit d'intérêts et qui perturbe la relation avec les parents dans la communauté, selon un avocat à la retraite. La Régie régionale de santé et de services sociaux du Nunavik, RRSSSN, qui chapeaute les deux DPJ du nord du Québec, reconnaît que des enfants sont parfois placés chez des intervenants. Il peut s'agir de placements d'urgence qui surviennent dans des situations exceptionnelles et de très courte durée, où l'employé, sur approbation de son supérieur, va prendre l'enfant avec lui s'il ne trouve pas un foyer immédiatement, explique la RRSSSN. Dans d'autres cas, ce sont des placements en bonne et due forme dans des familles d'accueil où l'un des parents travaille pour la DPJ. Une fois le réseau inuit épuisé, il arrive de devoir se tourner vers des milieux non-inuits. C'est dans ces cas que les personnes non-inuites venues au Nunavik pour un contrat de travail peuvent être considérées comme une option, souvent d'abord temporaire, répond la régie par courriel. Dans de rares cas, les procédures prennent beaucoup de temps et le travailleur s'occupant d'un enfant retourne vivre dans le sud. La régie assure toutefois que, dans le cas d'un placement chez un employé, le processus d'accréditation est beaucoup plus rigoureux. Filière familiale. Or, les règles ne sont pas toujours suivies à la lettre, constate le juge Jacques Ladouceur, qui s'est penché sur le cas d'un enfant d'à peine un an placé dans une famille allochtone située à plus de 1600 km de son village. Dans son jugement, rendu en novembre 2022 et porté en appel par la DPJ, il se questionne sur l'absence de démarches faites pour tenter, dans un premier temps, de trouver une famille à proximité, comme prévu par la Loi sur la protection de la jeunesse, LPJ. L'explication la plus plausible est celle qu'il semble exister un réseau de contacts entre les intervenants de la DPJ et d'ex-travailleurs de la DPJ, puisque le couple à qui l'enfant est confié est composé, entre autres, d'un homme ayant travaillé durant 3 ans pour la DPJ au territoire, écrit le juge dans un document de plus de 40 pages qui anonymise le nom des personnes et des lieux en vertu de la LPJ. Il semble qu'une filière familiale prolifique pour le placement d'enfants inuits existe, car la mère du père de famille d'accueil ayant travaillé au territoire a également travaillé à cet endroit et a un enfant inuit âgé de 2 ans placé chez elle jusqu'à majorité et que sa tante, qui habite aussi la ville C, a un enfant inuit âgé de 6 ans placé avec elle jusqu'à majorité. Le juge constate que les droits de l'enfant ont été lésés par la DPJ, puisque celui-ci n'a eu aucun contact avec sa mère et les membres de sa famille depuis le placement, contrevenant au protocole et à la Loi sur la protection de la jeunesse. En fait, les agissements de la DPJ permettent de croire raisonnablement qu'elle ne voulait pas que l'enfant ait des contacts avec sa mère ni sa grand-mère, sa famille et sa communauté, afin de pouvoir ultimement justifier le placement à long terme de l'enfant dans la famille d'accueil dans le Sud, écrit-il. En raison du nombre et de la gravité des lésions de droit commis par la DPJ dans le présent cas, et considérant le déni de la DPJ à ce sujet, on peut se questionner sérieusement sur le caractère systémique de ces contraventions à la loi en lien plus particulièrement avec le placement d'enfants inuits en bas âge hors territoire chez des Blancs. La Régie n'a pas souhaité commenter cette décision pour des raisons de confidentialité, mais assure que des efforts colossaux sont mis afin de maintenir les enfants dans leur communauté et près de leur famille. Intervenant au dossier. Cette histoire n'est pourtant pas unique, a pu constater Le Devoir. Dans un autre jugement qui date de 2020, l'honorable Jean Gravel se penche lui aussi sur le cas d'un enfant de 2 ans qui vit depuis plus d'un an dans une famille d'accueil du sud de la province et dont la femme était une employée de la DPJ. La fille de la mère d'accueil accueille elle aussi un enfant inuit, précise le juge, qui a ordonné le maintien de l'enfant dans cette famille qui avait l'intention de retourner dans le Nord. Dans une autre décision de 2020, la juge Peggy Warolin reconnaît que les droits d'une enfant inuit ont été lésés puisqu'elle n'a pas eu les services auxquels elle avait droit. Elle mentionne au passage que le père d'accueil était l'intervenant au dossier de cet enfant quand il était dans le Nord. Le père d'accueil connaît X depuis longtemps. Il travaillait dans le village A, il travaillait pour la DPJ et était responsable spécifiquement du dossier de X, écrit-elle. La juge ne fait toutefois aucun commentaire indiquant que ce placement avec l'intervenant au dossier de l'enfant puisse être problématique et accorde aux parents d'accueil l'autorité parentale demandée par la DPJ. Apparence de conflit d'intérêts. Pour l'avocat à la retraite Jean-Claude Latraverse, qui a travaillé au Nunavik et rédigé un rapport sur la cour itinérante au nord du 55e parallèle en 2022, ce genre de placement est indiscutablement problématique. Il se rappelle lui-même avoir été en colère lorsqu'il a eu vent de cette pratique pour la première fois en 2003, dans un dossier où l'enfant avait été placé chez une intervenante de la DPJ déménagée dans le sud. Il y a, dans ce type de placement, apparence de conflit d'intérêts, explique-t-il en entrevue avec Le Devoir. Je trouve ça un peu odieux, dans la mesure où ils ont des contacts pour avoir ces enfants-là. Selon lui, cela perturbe la relation entre les intervenants de la DPJ et les familles d'origine, du fait qu'on peut se questionner sur la neutralité des intervenants qui doivent réévaluer la famille pour savoir si l'enfant peut retourner vivre avec ses parents. C'est sûr que si tu rentres comme travailleuse à la protection de la jeunesse dans une famille et que tu vois que la sécurité de l'enfant est compromise, ils vont te recevoir comme un voleur d'enfants. Et là, non seulement ils se disent que l'intervenant vole l'enfant, mais ils le gardent avec lui. Comment peut-on avoir confiance après ça? C'est impossible. Obligation de maintenir l'identité culturelle. La loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 au Canada, vise à préserver les liens de l'enfant avec sa famille, sa communauté et sa culture. Elle oblige notamment les fournisseurs de services à faire des efforts raisonnables pour trouver une famille d'accueil dans la communauté de l'enfant avant d'envisager un placement dans des familles allochtones hors territoire et à réévaluer le placement sur une base régulière. Au Québec, le gouvernement a modifié la loi sur la protection de la jeunesse en avril 2022 pour y inclure des dispositions particulières pour les Autochtones. On y réitère l'obligation de procéder selon l'ordre de priorité pour un placement et on insiste sur le fait que toute décision ou intervention auprès d'un enfant autochtone doit favoriser la continuité culturelle. Le protocole de la DPJ prévoit quant à lui que l'enfant se rende au minimum 2 fois par année dans sa communauté d'origine, et l'élaboration d'un plan avec des moyens concrets pour assurer la continuité culturelle de l'enfant. C'était « Des enfants placés chez des intervenants de la DPJ », un texte de Jessica Nadeau, paru le 25 mai 2024 dans Le Devoir.
Les bienfaits d'un long jeûne nocturne. Un texte de la rédaction paru le 25 janvier 2024 dans Science et Avenir. l'heure à laquelle sont pris les repas pourrait avoir une influence sur le risque de développer des maladies cardiovasculaires. C'est ce que révèle une étude pilotée par l'INRAE, Institut national de la recherche agronomique, et l'INSERM, avec l'Institut de santé globale de Barcelone, Espagne. Sur les 18,6 millions de morts par an qu'elles occasionnent dans le monde, près de 8 millions seraient ainsi attribuables à l'alimentation, selon le Global Burden of Disease, 2019. Et parmi ces derniers, l'heure des prises alimentaires aurait elle-même un impact. En utilisant les données de près de 104 000 patients de la cohorte Nutrinet Santé suivie de 2009 à 2022, parmi lesquels 79 % de femmes, l'équipe dirigée par les professeurs en épidémiologie nutritionnelle Bernard Sroure et Mathilde Touvier a pu analyser les associations entre les rythmes de prise alimentaire et les risques de maladies cardiovasculaires. Des pics de mélatonine, de cortisone et d'insuline. Leurs résultats, publiés dans Nature Communications, montre l'importance de prendre son premier repas tôt, à condition de ne pas prendre le dernier trop tard. Plus la durée du jeûne nocturne, c'est-à-dire le temps séparant la dernière prise alimentaire de la journée de la première du lendemain, est longue, mieux c'est, détaille Bernard Sroure. Cette période doit cependant être synchronisée avec notre horloge circadienne, rythmée par le cycle jour-nuit. De fait, les pics de plusieurs hormones dépendent de cette horloge. Par exemple, la mélatonine, le cortisol et l'insuline sont différemment sécrétés selon le moment de la journée ou de la nuit et ont une influence sur le métabolisme, précise l'épidémiologiste. Ainsi, l'étude suggère-t-elle de prendre son petit déjeuner le plus tôt possible, vers 8 heures, afin d'éviter de manger tardivement, après 21 heures. En effet, une personne qui a pour habitude de manger pour la première fois à 9 heures aurait 6 % de risque en plus d'avoir une maladie cardiovasculaire qu'une personne qui a l'habitude de se sustenter à 8 heures. Quant à la dernière prise alimentaire de la journée, manger après 21 heures est associé à une augmentation de 28 % du risque de maladies cérébrovasculaires, comme les AVC, par rapport à une dernière prise alimentaire avant 20 heures, en particulier chez les femmes. C'était « Les bienfaits d'un long jeûne nocturne », un texte de la rédaction paru le 25 janvier 2024 dans « Science et Avenir ».